On y va. Donc le 22 janvier, c'est une date particulière et c'est cette année la 14e année, si j'ai bien compris. Mais tu vas nous préciser tout de suite que l'on commémore l'État plurinational de Bolivie.
Voilà. Non, en fait, il s'agit de la 11e anniversaire. On a fêté le 10e l'année passée, le 22 janvier évidemment aussi. C'est la naissance d'une nouvelle Bolivie. Il s'agit du changement radical de toute une série de paradigmes qui sont actuellement en Amérique latine, qui voulaient qu'il y ait des élites qui sont au service de... tu as dit que c'est une radio engagée.
Oui.
Très bien. Alors, des paradigmes des gens qui sont une élite qui sont au service de l'Empire américain.
Très bien. Eh bien, merci de m'avoir d'avoir remis à cheval le truc. Donc, la 11e année, en fait.
C'est la 11e année, tout à fait.
Alors, j'entends bien que beaucoup des personnes qui sont parmi nous connaissent parfaitement bien, ou en tout cas, si ce n'est le sujet, la situation de la Bolivie. Nous, en pensant également aux auditrices et aux auditeurs qui vont par la suite entendre ces paroles, eh bien, nous allons tout de même parler en quelques mots de la Bolivie. Qu'est-ce donc que ce pays ? C'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu avant. Je me suis noté quelques petits mots par rapport à ça, mais de mémoire, c'est un peu plus de 11 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Un peu plus de 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire 25 fois la Suisse.
1,5 million de kilomètres carrés.
1 million et demi, donc plus de 25 fois la Suisse, c'est juste pour qualifier un petit peu le pays, que c'est un pays plurinational et on reviendra sur cette centralité.
Okay.
Tu vas nous préciser ça, ce que signifie que la plurinationalité. Que dire d'autre? Que c'est un pays qui a des ressources, notamment du lithium, notamment de l'argent.
Du pétrole
également.
Du gaz.
Donc ça, c'est évidemment pas neutre dans tout ce que l'on va dire ce soir. Que dire de plus? Que oui, il y a une capitale administrative, une capitale constitutionnelle. La Paz pour l'admin.
Et Sucre.
Pour la constitutionnelle.
Tout à fait.
Et que, eh bien, il y a effectivement ces nations qui sont reconnues, qui sont au nombre.
Des 36 nations qui ont été reconnues justement à partir du moment où l'État plurinational de la Bolivie est né, c'est-à-dire le 22 janvier 2009.
Alors peut-être juste avant qu'on entre dans cette notion d'État plurinational, dire que la Bolivie fait partie de la communauté andine. Et également, mais ça, si je ne me trompe pas, mais tu vas me démentir si c'est le cas, de l'ALBA, l'Alliance des pays bolivariens, à moins que ça ne soit plus le cas.
Ce n'est plus le cas. Les gouvernements de transition, comme son nom ne l'indique pas, a fait des mesures, notamment de sortir la Bolivie des organisations ou de rompre des relations avec des pays frères.
Des pays alliés.
C'est des pays alliés, mais nous, on parle des pays frères plus qu'autre chose. On parle surtout de la patria grande, qui serait la grande patrie, qui veut qu'il n'y ait pas de frontières et qu'on soit tous des frères.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'on entend par État plurinational de Bolivie, qui est l'appellation officielle complète de la Bolivie?
Très bien. État plurinational, il y a deux en Amérique latine. On pourrait, dans cette notion, inclure par exemple la Suisse, la Belgique. On parle aussi des plurinationalités quand on parle des Maoris en Nouvelle-Zélande, où ils ont du territoire pour eux. L'État plurinational, il faut que...
Prends un bonbon.
Par opposition à la République. La République... qui elle-même est née par opposition au roi, à l'aristocratie, était aussi considérée comme république, par exemple, des régions ou des pays où il y avait un dictateur. Tant qu'il n'y avait pas de roi, c'était la république. Je schématise, évidemment. L'État plurinational... dans le sens de l'inclusion de tout le monde. La République était excluante pour une bonne partie de la population, tant en Bolivie qu'en Équateur, parce qu'il faut savoir que l'Équateur aussi est un État plurinational. Et l'inclusion aussi de tout ce qui est culture, de tout ce qui est civilisation, de tout ce qui est... Parce que si on va aller très loin dans l'histoire, quand les Espagnols sont arrivés dans nos régions, ils sont venus civiliser, soi-disant. Or, il y avait déjà des civilisations. Il y avait des lieux avec de la philosophie, avec des organisations sociales très poussées, mais eux, ils ont voulu effacer tout ça. Donc, l'État plurinational ou le processus des changements dont on parle aussi veut que tous ces États, tous ces gens, toutes ces cultures soient récupérées et qui se développent. Maintenant, je vais commencer peut-être par critiquer un peu l'État plurinational dans le sens où on n'a pas eu le temps d'aller très loin dans cette perspective. C'est-à-dire, il aurait fallu presque faire une Suisse avec 36 cantons. C'était le plan, finalement. Mais c'était assez difficile parce que c'est évident, la Suisse ne s'est pas faite en 10 ans, en 14 ans, hein, c'était impossible. Elle s'est faite en plus de 700 ans. Et encore maintenant, on est en train d'essayer de faire autrement. Cela dit, on aurait dû aller dans ce sens. La situation politique bolivienne ne l'a pas permis. Je veux dire, je vais être critique peut-être, mais bon, on n'a pas eu une volonté très forte d'aller dans ce sens. Par contre, dans l'inclusion, oui. Dans l'inclusion, on a eu beaucoup d'avancées dans cet aspect-là.
Très bien. Alors, je propose qu'on fasse comme ça. Je voulais te questionner. On va évidemment cheminer tout au long de l'histoire très contemporaine. Je pense qu'on pourrait partir de 2005, de l'élection d'Evo Morales, bien entendu. Mais avant cela, pour commencer, quelle est la situation actuellement en Bolivie, au moment où on se parle? Est-ce que c'est une situation de tension extrême? Les gens sont dans la rue, la société est extrêmement divisée, ou ce n'est pas le cas? Voudrais-tu nous dire, prenons la température de la Bolivie actuellement, en ce moment.
Le 20 octobre de l'année 2019, il y a eu des élections dans l'État plurinational de la Bolivie. Ces élections, apparemment, ont été bien préparées par des gens qui ne voulaient plus qu'il y ait cette inclusion et cette égalité. Parce que quand on parle du processus de changement, on parle aussi du partage de la richesse sur le plan national. On aura sûrement l'opportunité de parler un peu de l'économie et tout ça. Et c'était préparé par des gens qui ont profité d'une espèce de, comment dire ça, de division qui a été créée de toutes pièces par les moyens de communication, par la société elle-même. On peut en parler longuement sur ça, mais surtout de toute évidence par des gens qui ne voulaient plus qu'il y ait cette inclusion, qui ne voulaient plus que les pauvres qu'avant étaient en train de demander un peu le salaire, hein, ne serait-ce que le salaire. Les profs d'école en 2005 ne pouvaient pas recevoir leur dernier salaire de l'année parce que les présidents n'avaient pas d'argent. Et en 2016, 17, 18, et chacun des Boliviens a reçu un deuxième, treizième salaire. Voilà la différence. Les salaires moyens, les salaires minimums de la Bolivie étaient de 400 pesos. Hein. Je crois que quelqu'un peut me faire la... parce que le dollar n'a pas changé depuis 2006. Et actuellement, il est de plus de 2000 pesos. C'est-à-dire Ça, c'est le partage de la richesse. Et c'est venu justement parce qu'il y a eu des mesures de renégociation des contrats concernant le pétrole et tout ça. Mais je m'égare là. En ce moment, Bolivie...
La Bolivie, au quotidien.
En ce moment, le 10 novembre, le président Morales a démissionné. Il a démissionné parce que l'armée lui a suggéré de démissionner. L'armée qui, le 6 août, était en train de jurer à Evo Morales, lui a suggéré de démissionner. Il y avait des confrontations dans la rue parce qu'on avait parlé d'une espèce de fraude qui n'était pas démontrée. J'aimerais qu'on revienne sur le point tout à l'heure. Et il y a eu des gens qui sont sortis dans la rue et la présidente a... Enfin, d'abord... Il y a eu la suggestion de l'armée, du chef de l'armée, pour dire qu'Evo Morales devrait démissionner. La société était complètement survoltée. Evo Morales a décidé de démissionner pour qu'il n'y ait pas un bain de sang. Et il est parti parce que sa vie même, elle était en danger. À ce moment-là, on aurait dû, constitutionnellement parlant, toujours dire, voilà, le président doit prendre la présidence. Mais le président aussi a été contraint de démissionner. Et il faut savoir que juste avant les démissions des deux principaux dirigeants de la Bolivie, il y a eu dans les rues des gens qui allaient brûler des lieux où on faisait les comptages des votes. Il y a eu des gens qui ont été allés brûler les maisons, par exemple, du président de la Chambre des députés. Ils ont pris en otage son frère, ils l'ont battu, et ils ont menacé, c'est M. Borda, ils l'ont menacé, ils ont dit, si toi tu ne démissionnes pas, tu ne verras plus ton frère. La présidente du Sénat, Adriana Salvatierra, a dû démissionner comme ça. Ça veut dire que tout ça était préparé, parce que dans la succession, on aurait dû avoir le président... Les vice-présidents, pas des vice-présidents, la présidente du Sénat, pas des présidents du Sénat, le président de la Chambre des députés. Et la Constitution s'arrête là. Ça veut dire que comme on a demandé à tous ces gens de démissionner, on leur a demandé, on l'a forcé de démissionner, il y a eu une espèce de vide de pouvoir qui a été déclaré. Et... on a réuni les parlements sans quorum parce qu'on a empêché le parti du président, c'est les mouvements au socialisme, les MAS. On a empêché les députés du MAS d'entrer dans les palais législatifs. On a empêché la présidente d'entrer avec la police. On a des vidéos qui montrent ça. Et pendant ce temps, eux, ils ont décidé dans un législatif complètement vide de donner la présidence à la vice-présidente du Sénat. Et voilà. Et maintenant, la situation en Bolivie est la suivante. Je commence.
On y va. Peut-être qu'avant, j'aurais encore voulu te questionner sur le rôle notamment des médias, parce qu'effectivement, pour qu'une idéologie ou pour que l'on fasse une désinformation, eh bien, les médias doivent être complices d'une manière ou d'une autre. On est obligé de les impliquer. Alors, quelle est cette situation? Quelle est la situation des masses médias en Bolivie? Et de la même manière, quels sont les pays voisins et les influences qui, de l'extérieur, pourraient contribuer également à la situation à laquelle nous assistons actuellement?
Alors, c'est deux vastes points. Hein. Les médias, comme dans tout le monde, il y a des médias, les masses médias, qui sont propriétés des oligarques. Hein. Ça, c'est une première chose. Pendant toute la période du gouvernement d'Evo Morales, c'est là où il y a les 14 ans, c'est le gouvernement de 14 ans d'Evo Morales. Et durant ces 14 ans, les masses médias ont fait tout pour montrer que le président n'était pas capable ou qu'il faisait, tout ce qu'il faisait était faux. Il y a eu des médias qui se sont développés, comme partout dans le monde, des médias alternatifs, des médias, bon, les réseaux sociaux, évidemment, mais les médias alternatifs qui étaient au service de la population ont été silenciés actuellement par les gouvernements. Il y a 53 radios qu'on les a fait taire. Il y a quelques radios qui résistent encore. Samedi passé, tous ceux qui étaient à la Place des Nations, on a pu voir, on a eu un épisode assez triste parce que le directeur de la radio, Kausa Chunkoka, qui était en direct chez nous à Place des Nations, il nous a demandé de l'aide, les larmes aux yeux. Ça nous a tous émus. Et c'est évident que je connais quelqu'un, par exemple, qui travaillait à la télévision officielle. Donc, évidemment, la télévision était prise par le gouvernement. Et l'instruction était aux journalistes, vous allez interviewer seulement ceux dont nous allons vous dire, si vous voulez conserver votre... Il y a eu des reporters internationaux, argentins notamment, qui ont été sortis. Ils ont dû fuir le pays parce qu'ils étaient en train de filmer la massacre du mois de novembre, les massacres. Ils étaient en train d'informer, évidemment, comme tout périodiste, mais ils ont dû fuir. Et tout ce qui était avant, comme qu'on disait Evo Morales, il n'y a pas de liberté de presse en Bolivie. Pour rigoler un peu, j'ai vu cette manche d'un journal dans la rue qui disait « En Bolivie, il n'y a pas de liberté de presse ». Comment est-ce qu'on peut avoir une liberté, ne pas avoir une liberté si on peut publier des choses comme ça?
Effectivement. Concernant l'influence externe, qu'en penses-tu? Y a-t-il des pays voisins alliés? Y a-t-il des influences extérieures dont on peut d'ores et déjà dire qu'elles sont prégnantes, qu'elles sont là? Évidemment, pour l'Amérique latine, il y a de multiples exemples d'implication, et pour le pays même, pour la Bolivie même. Hein, à l'époque même du Che, hein, lorsqu'il est assassiné là-bas, on sait que la CIA a été impliquée. Qu'en est-il de ce qui se passe actuellement, selon toi?
Alors, le pays qui a apparemment appuyé le plus les gens qui ont fait ces coups d'État, c'est le Brésil. On ne peut pas s'étonner. Il faut savoir qu'en Amérique latine, il y a eu un moment, l'apogée de l'Amérique latine était quand on avait comme président de Venezuela Hugo Chavez, en Équateur Correa, en Argentine Kirchner, Lula au Brésil, Evo en Bolivie, c'était Mujica en Uruguay. C'était vraiment la période, la belle période de peuples, de la patria grande, de la grande patrie. Mais maintenant, on voit que, on sait qu'est-ce qui s'est passé au Brésil, hein, tout simplement. C'est ce qu'ils veulent faire ici en Bolivie aussi, dans le sens où ils veulent faire aussi un coup d'État juridique. Dilma Rousseff, elle a été enlevée avec des mensonges. Lula da Silva a été emprisonné parce qu'on supposait qu'il avait un appartement. On supposait. Et c'est écrit dans les jugements. Et là, Cristina Kirchner a été persécutée. On n'a rien pu trouver. Correa aussi. Donc, on assiste ici plutôt à une influence des gens qui veulent absolument qu'il n'y ait plus cette égalité pour tout le monde. Ils veulent effacer cette belle période qu'on a vécue. Et quand tu me parles des pays voisins, la première chose qui me vient à la tête, c'est le Brésil. Il y a aussi la Colombie. Mais il y a surtout les États-Unis. Et ça, on peut en parler encore 3 heures. Ouais.
Il y a également dans le pays des poches de résistance qui s'organisent et qui tiennent. Eh bien, quelles sont-elles, ces poches de résistance? Est-ce qu'elles sont transversales? Est-ce qu'on les retrouve plus au sein des étudiantes et des étudiants, des syndicats, des travailleuses et des travailleurs? Premier volet de la question. Et deuxième volet, et le MAS? Alors, où en est-on?
Alors, d'abord, pour les poches de résistance, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Evo Morales est monté à la présidence, il a été mis ici par ce qu'on appelle les mouvements sociaux. les mouvements sociaux, c'est les syndicats, c'est les organisations des paysans, c'est tous les gens qui sont de près ou de loin avec la classe ouvrière, avec la classe paysanne. Les plus, hein, donc en Bolivie. Et ces mouvements sociaux, j'adore ça parce qu'on dit assez souvent qu'on s'est autoconvoqué quand on va faire une marche. Il faut savoir que la partie andine, l'aymara, il est très pacifiste. On n'aime pas tellement la confrontation. Il y a des guerriers, il y a eu des guerriers dans l'histoire de la patrie aymara, mais c'est plutôt pacifiste. Donc la preuve, c'est quand, juste avant les élections, il y a eu plein de gens qui se sont mobilisés pour protester contre Evo Morales parce qu'il s'est représenté pour la troisième fois, ainsi de suite. Le peuple n'a pas bougé. Ils ont commencé à s'exprimer seulement quand Evo Morales a dû démissionner. Et c'est là où il y a eu le massacre. Aujourd'hui, le 22 janvier 2020, il y a des gens qui sont en train de faire des marches en Bolivie. On espère vraiment qu'il n'y aura pas autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les villes, les grandes villes de la Bolivie, sont militarisées en ce moment. Il y a des troupes de l'armée qui sont en train de se balader dans les villes pour éviter que les gens viennent marcher. Et encore une fois, c'est des marches pacifiques. Et les poches de résistance, c'est eux. C'est les cultivateurs, c'est les syndicalistes, c'est... Voilà. Les femmes aussi, merci. Et pour le MAS, alors, le mouvement au socialisme est un parti politique assez atypique dans le sens où il y a un instrument politique à côté, l'IPSCP, qui fait pratiquement tout ce qui est... Toutes les mesures qui ont été prises par des gens très capables qui ont étudié la société bolivienne. On peut en parler des prestations qui ont été données aux enfants, à la mère porteuse, ainsi de suite, et qui ont été étudiées dans le sens où de construire une société, une nouvelle société. Le MAS est un parti très populaire. On pourrait en parler. Donc, il est issu d'un mouvement qui était auparavant mené par une autre personne qui est décédée. Je parle ici de Carlos Palenque, pour ceux qui le connaissent, et du mouvement des cocaleros. Les cocaleros, c'est ceux qui plantent la coca à une altitude de 2600 mètres d'altitude où poussent les oranges, les bananes. Bon, ça, c'est les caractéristiques de mon pays. Ceci dit, donc, les masses, c'est un noyau avec des gens très capables. Malgré tout ce qu'on peut se dire, on pourra en parler une fois tout à l'heure ou je sais pas. Ils sont pour l'instant, ils ont fait un pacte d'unité, d'accord. Il y a tout le monde qui est en train de dire qui sera le nouveau, parce qu'il y a des élections qui ont été appelées pour le mois de mai, qui va être candidat. Donc ça a été, il y avait plusieurs noms qui étaient sortis. Et finalement, ils ont fait un pacte d'unité. Ils ont dit: l'unité va faire en sorte que nos ennemis tombent. Donc, pour l'instant, j'ose espérer que le MAS est encore un parti très uni.
D'accord. Alors, si des commentaires ou des questions surgiraient à ce moment-là, on peut faire un petit passage dans la salle. Vous nous faites signe à tout moment. Nous, on veille à ce que, évidemment, chacune et chacun puisse s'exprimer. Pour le moment, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors venons-en, repartons de 2005, c'est le moment où Evo Morales est élu. C'est déjà un tremblement de terre d'une certaine manière, c'est un président issu des peuples autochtones. Que trouve-t-il? Je crois que c'est le deuxième dans l'histoire de la Bolivie, ou c'est le premier?
C'est le premier.
C'est le tout
donc,
premier.
Il y a,
ouais.
il y a... Non, oui, c'est le premier. C'est... Dans l'histoire de la Bolivie, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu la révolution d'indépendance en 1825, quand la Bolivie est née comme État indépendant, c'était seulement les criollos, c'est-à-dire les Espagnols nés dans les continents, ou les Espagnols qui en avaient marre de la couronne, ou un certain nombre de personnes qui avaient des intérêts économiques, mais qui étaient blancs, qui avaient fait cette révolution. L'Indien n'a pas participé à cette révolution. Bah, il a participé en tant que chair de canon.
D'accord.
Mais voilà. Donc, Evo Morales, en 2005, c'est vraiment un tremblement de terre, comme tu dis. Mais c'est un tremblement de terre qui était... Comment te dire ? Quand on arrive à 2005, Evo Morales avait fait déjà une deuxième... une élection avant, donc 4 ans avant, où il était sorti, il était presque élu. Et il y a eu différents mouvements à ce moment-là, parce que bon, les gars étaient en train de se vendre par le Chili, ils voulaient donner nos ressources naturelles pour rien. Et les gens se sont soulevés. On parle de la guerre du gaz, on parle de la guerre de l'eau, on parle de ces mouvements qui ont été faits par le peuple. Et si on veut bien, l'élite gouvernante, quand Evo Morales est arrivé au pouvoir, ils ont dit, on va laisser gouverner l'Indien. Ça va lui prendre 3 mois. Il ne va pas être capable.
Oui.
Donc, les tremblements de terre, ils ne l'ont pas senti. Ils s'attendaient à autre chose.
D'accord. Voudrais-tu nous décrire la Bolivie, le contexte bolivien au moment où, justement, eh bien, Evo Morales est élu? Quel est le contexte qui, d'une certaine manière, eh bien, permet que cela survienne, que cela advienne? Et quelles sont les premières mesures au moment où Evo Morales eh bien, est au pouvoir? Eh bien, quelles sont ses priorités? Quelles sont ses premières mesures?
Alors, donc le moment où le pays... donc, Evo Morales arrive au pouvoir, le pays était dans la misère. Comme je t'ai dit, le président, juste avant, le président Carlos Mesa avait dit à la télévision, puis on voit et on revoit cette vidéo où il dit, les profs, je ne peux pas vous payer votre salaire parce que je n'ai pas d'argent. J'ai de l'argent, l'argent que j'ai, c'est l'argent que je trouve quand je tends la main à ceux qui veulent bien m'en donner. Ça, c'était le pays que Evo Morales a trouvé. Le pétrole était exploité par des entreprises transnationales. Le baril de pétrole était inférieur au marché mondial parce qu'il était bolivien. L'entreprise transnationale avait payé 18% d'impôts. Tout nouveau puits pétrolier qui était découvert par l'entreprise, le pétrole était pour l'entreprise au nom de la technologie qu'ils utilisent et tout ça. Et évidemment, la pauvreté à tous les niveaux en Bolivie. Juste encore un petit détail. Lorsqu'Evo Morales est arrivé, et puis depuis toujours, il y avait deux sortes d'éducation en Bolivie. L'éducation urbaine et l'éducation rurale. L'éducation rurale, évidemment, les gens étaient formés pour les Indiens. C'est-à-dire que c'était très facile d'être prof rural, apparemment. On a des exemples contraires à ça. Il y a des écoles qui ont pu développer des façons d'éduquer d'une autre façon. Je parle de Wallisata, par exemple. Mais voilà, donc c'était l'état de la Bolivie. Donc Evo Morales arrive et la première chose, les premières mesures qu'on prend, c'est des mesures d'inclusion. Il faut absolument arrêter avec tout ça. Et la deuxième mesure, et ça c'était la mesure, rien que pour ça on devrait voter tout le temps pour Evo Morales, il a renégocié les contrats avec les entreprises. Alors on dit, il disait, nous on ne veut pas des patrons, on veut des associés. Et il a dit, il a fait en sorte que les entreprises pétrolières restent en Bolivie à cause du transfert des technologies justement, mais avec d'autres conditions. Les 82% du produit de cette exploitation devrait aller à la Bolivie. Et ça a permis à la Bolivie de décoller. Ça a permis à la Bolivie de faire la croissance, la plus grande croissance de l'Amérique latine pendant pas mal de temps. Ça a permis à des gens accéder à... Moi, je me souviens quand je suis allé en Bolivie en 1994, parce que j'habite ici depuis 83. En 1994, je suis arrivé en Bolivie, il n'y avait pas une seule pierre qui avait bougé. Les gens étaient pauvres. Quand je suis allé en 2017, enfin, je suis allé entre deux, mais en 2017, tout le monde avait les derniers cris du téléphone portable. Ils avaient même les meilleurs téléphones que moi. Mais ça, c'était... Et on était heureux de voir les cholitas, c'est les gens, les femmes indiennes qui portent une jupe et puis les chapeaux, qui étaient tout simplement en train de se prendre des selfies ou des choses comme ça. On a vu développer pas mal de gens. Donc il y avait des possibilités. La distribution de la richesse avait été une réussite.
Alors venons-en à l'économie, aux infrastructures. Effectivement, là aussi, on a un avant et un après Morales, pourrait-on dire, mais tu vas le confirmer ou le démentir. Et pourrait-on dire d'une certaine manière que au lendemain de ces élections, eh bien, les ennemis fomentaient déjà en quelque sorte en disant « Oui, effectivement, c'est l'Indien, on va le laisser faire. » Mais d'une certaine manière, eh bien, on voit bien, on peut citer Total, hein, qui a des intérêts, pour citer une qui est proche de nous. Il y a probablement des banques également qui ont des intérêts majeurs en Bolivie. Peut-être l'extractivisme aussi à court, hein, eh bien, bien entendu. Mais pourrait-on dire que, voilà, quasiment au lendemain de cette élection, eh bien, l'ennemi fomentait d'une certaine manière, en tout cas l'ennemi s'entendait pour se dire « on va pas laisser faire ça ».
Tout à fait. En 2008, déjà, il y a eu une tentative de coup d'État. En 2008, le gouvernement a trouvé des gens qui étaient prêts à, donc, qui étaient en train de planifier l'assassinat d'Evo Morales. L'Orient, quand on parle de la Bolivie, il faut parler de ces 1500 km², une grande partie de la population se trouve dans la partie andine. Et il y a une grande ville à Santa Cruz, qui est dans l'Amazonie, en pleine Amazonie, où on trouve actuellement 1,5 million d'habitants, où se trouve la plus grande partie du mouvement commercial bolivien. Et c'est ici qui se trouve aussi l'opposition la plus grande à Evo Morales. Et eux, ils ont essayé de faire un coup d'État en 2008. Qui a été avorté parce que il y avait justement cette unité de la Patria Grande. Michel Bachelet a appelé tout de suite l'UNASUR à se réunir. Il y a eu tous les présidents. Ça c'était beau à voir. Hein. Il y avait Fidel Castro aussi à l'époque. Mais non, il n'était pas à l'UNASUR. Mais bon, ils ont déclaré que ils n'allaient pas tolérer un coup d'État. Evo Morales a déclaré persona non grata l'ambassadeur américain, Philip Goldberg, qui était un diplomate, je crois qu'il était chargé d'affaires en Yougoslavie pendant les guerres des Balkans. Donc on savait très bien quels étaient les moyens. Donc on voulait faire imploser la Bolivie depuis l'intérieur. Il y a eu le mouvement de la demi-lune, qu'on appelle, des gouverneurs fascistes, qui voulait séparer la Bolivie en deux, la partie riche et l'autre partie. Et donc voilà, donc c'était les ennemis jurés que petit à petit on pensait qu'ils étaient, ils s'étaient calmés. Mais ouais.
Est-ce qu'il y a un moment où quelque chose a manqué pour consolider une situation qui, comme tu l'as dit toi-même, paraissait favorable? Le moment où effectivement Chavez ou Correa sont là, ou l'Alba, on pouvait imaginer que eh bien, ce soit là un pivot et puis un endroit où, duquel pourrait partir cette patria grande et ce socialisme du buen vivir, toutes ces choses-là. Est-ce que là, quelque chose a manqué? Et selon toi, si quelque chose a manqué, qu'est-ce qui a manqué pour qu'on en arrive finalement maintenant à une Amérique latine qui est dans la peine?
Je ne parlerai pas du manque. Je parlerai plutôt de qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a l'ingérence, nécessairement. On ne peut pas parler d'autre chose. Il ne faut pas oublier que la partie énergétique, c'est-à-dire que bah, les États-Unis, on le sait très bien, ils adorent la voiture, ils consomment du pétrole à tout va, ils font des guerres partout juste pour avoir du pétrole. Au Venezuela, ils ont le pétrole là et ils veulent le récupérer. En Bolivie, il y a le lithium.
Eh oui.
Et c'est la première réserve mondiale du lithium. Et si tout va bien, ça sera le pétrole du futur. Et ça, ils veulent quand même garder la main mise. Ce n'est que ça. On peut aller... Il n'y a pas à se perdre. On ne peut pas se perdre. Tous ces gens qui sont en train de faire des campagnes contre Evo Morales, des campagnes contre le socialisme, sont en fait des objets de cette mainmise qu'ils veulent mettre dans nos pays. Ne serait-ce que le commerce. 300 millions de personnes dans la cour arrière des États-Unis, ça vaut quand même le coup, non?
Eh oui. Alors, on peut clairement parler là d'une guerre coloniale, d'une guerre commerciale, d'une certaine manière.
D'une guerre néocoloniale, ouais. Tout à fait. Ouais. L'impérialisme qui fait, bah, on connaît tous qui... quelque chose qu'on doit savoir, qu'on doit se voir aussi, qu'on doit voir, parce que nous, on était un peu choqués. Moi, j'étais sûr que la Bolivie n'allait pas avoir un coup d'État jamais, parce que de toute façon, la communauté internationale allait réagir et tout ça. Non, la communauté internationale est en train de regarder autre chose, est en train de regarder l'économie du monde. La communauté internationale, quand la Suisse a eu des problèmes avec Kadhafi, avec les fils Kadhafi, on était à l'ONU, il y avait les présidents de la Confédération qui voulaient parler avec Kadhafi, mais l'Europe n'a pas bougé un doigt. Et c'est ça, la communauté internationale. Et c'est clair que les États-Unis, quand ils disent qu'il ne faut pas que Evo Morales traverse les territoires français parce que probablement Snowden est dans son avion, bah, la France de Hollande a interdit l'avion d'Evo Morales de traverser les territoires français. Et ça, c'est sous ordre de qui? Des Américains.
Tout est dit d'une certaine manière. Actuellement, Evo Morales, donc est réfugié au Mexique?
Non, il est en Argentine.
Non, en Argentine, pardon. Qu'en est-il? Est-ce qu'il l'observe? Est-ce qu'il le conseille? Est-ce que, voilà, quelle est sa marge de manœuvre à Evo Morales?
Alors, en ce moment, Evo Morales est en Argentine et il a été nommé chef de campagne du MAS. D'accord? On a nommé deux personnes pour être candidat. Donc pour l'instant, il faut que ce soit confirmé. C'est quasi confirmé. Il faut encore que la Bolivie, les bases de la Bolivie soient d'accord. Il y a des négociations qui se font en ce moment. Il y a les candidats à président qui est, à mon avis, la personne qu'il faut. C'est l'ancien ministre d'économie, qui a été formé à l'université de Warwick. et qui a fait bah, les merveilles qu'on a vues avec l'économie bolivienne. Donc ça serait les présidents et les vice-présidents. Le candidat à la vice-présidence serait David Choquehuanca, qui était le ministre des Relations extérieures pendant une bonne période. Donc quelqu'un qui est d'extraction aymara et qui connaît très bien tout ce qui est.
D'accord. En attendant de questionner tout soudain sur eh bien, comment toi tu vois l'avenir, hein, il y a des échéances politiques qui arrivent, il y a une société civile qui est là, qui est en crise, et puis il y a des événements qui ont cours, eh bien, j'aurais voulu savoir, de ton point de vue, quelles sont les mesures qui t'ont le plus touché de ces trois mandats d'Evo Morales, également peut-être des analogies que l'on pourrait faire avec quelques-uns de ses voisins. Je pensais l'autre jour à Rafael Correa, parce qu'on a eu la chance de l'interviewer au moment où il passait à Genève à l'université, où on a parlé des droits de la nature, par exemple, hein, de constitutionnaliser finalement les droits de la nature. Alors pour toi, s'il fallait chanter les louanges d'une certaine manière, mais dire voilà ce qui a été très concrètement fait, quelles seraient les choses que tu retiendrais concernant Evo Morales?
Alors, je vais aller par deux aspects. Hein. Le premier, c'est la partie, culturelle, dans le sens où d'où vient Evo Morales. Je vais faire un parallèle, après tu verras, c'est très joli. Evo Morales vient du peuple aymara, et parmi les aymaras, quand on nomme quelqu'un président, dirigeant ou quelque chose, on lui donne une responsabilité. En fait, si on te nomme à toi Malku, qui est un des dirigeants du peuple aymara, c'est comme si on te nommait mon père ou le père de toutes ces personnes-là. Et ton père de 10 millions d'habitants, tu ne peux pas faire autrement que d'être responsable. Parce que tes enfants ne peuvent pas mourir de faim, ne peuvent pas se battre, ne peuvent pas ne pas avoir l'éducation et tout ça. Ça s'appelle gouverner par la responsabilité. Contrairement à gouverner par les privilèges. On voit ici à Genève les affaires dont on parle dernièrement. Apparemment, on a les privilèges d'avoir une carte de crédit qui fonctionne bien, ou des voyages payés, tout prix payé, c'est des privilèges. Et puis on gouverne pour ça. Quand Sarkozy est élu à la présidence, il fait une grande fête au meilleur restaurant de Paris. C'est ça, les privilèges, gouverner par les privilèges. Evo Morales ne dormait pas. Il s'est rendu au palais présidentiel à 5h du matin. Il faisait son cabinet ministériel. Ils étaient là, tous les ministres. Et à 8h, il disait « Bon, les gars, maintenant, on va aller travailler ».
Voilà, ça en dit long, ouais, effectivement. Selon toi, et ensuite je viendrai à la question de l'avenir et maintenant, et la suite, que fait-on? Quel est le rôle, si un rôle est à jouer, des Boliviens de l'extérieur, que ce soit en Amérique latine, mais également ici en Suisse, également en Europe? Y a-t-il quelque chose que ces personnes-là, le simple fait déjà de se tenir informées, bien entendu, est important, mais selon toi, est-ce que voilà, il y aurait là des ressources à mobiliser?
Alors, c'est très difficile. C'est très difficile. Encore une fois, samedi, quand on était tous en train de pleurer avec le directeur de la radio Causa Chuncoca à la Place des Nations, moi, j'ai senti l'impuissance. Il y a des moyens d'action. Les moyens d'action les plus directs sont là, en Bolivie. Nous, depuis l'extérieur, une des luttes qu'on mène en ce moment, c'est la dénonciation. C'est la dénonciation auprès aux organismes internationaux ici. On fait aussi, c'est clair que le fait d'être informé, ça nous permet de se mobiliser. Je profite pour dire que samedi 25, il y aura une fête de solidarité. Qui va faire dans le but d'avoir des fonds pour pouvoir aider les personnes qui sont blessées ou qui ont des besoins là-bas en Bolivie. C'est très difficile depuis ici faire des choses immédiates, mais on peut agir, on peut mettre la pression. Il y a eu un communiqué de plusieurs parlementaires suisses qui ont demandé à la Confédération s'ils vont, quelle est la réaction. Il y a des contacts comme ça. À notre niveau, on peut faire plein de choses qui vont finalement nous aider à dire bah, je suis en train de faire, mais aussi qui, avec les temps, parce que c'est des machines, c'est des énormes machines, l'ONU et tout ça, mais avec les temps, ça va donner ses fruits.
Très bien. Les prochaines échéances, quelles sont-elles? Politiques, sociales, selon toi, des manifestations de prévues, des élections qui arrivent?
Alors, aujourd'hui, les 22 janvier, c'était les derniers jours de la présidente. Et la cour électorale a décidé que la présidente va aller jusqu'aux élections du mois de mai. Le 8 mai, il y a les élections nationales. Mais bon, lui, on ne pouvait pas dire que la présidente va aller jusqu'à le mois de mai parce que le moment où le Parlement arrêtait de fonctionner, elle n'avait plus le prétexte pour être là. Oui. Donc, ils ont prolongé la législature jusqu'au 8 mai. Donc, ça, la prochaine échéance, c'est les élections du 8 mai. Ceci dit, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des marches qui sont en train de se donner à la passe, en Bolivie entière. On craint qu'il y ait des débordements ou une nouvelle massacre. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu 37 morts déjà. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit toujours. Pendant les 14 ans d'Evo Morales, l'armée n'a jamais sorti à la rue. Mais voilà, il a fallu quelques jours pour que la présidente de facto fasse ce massacre.
Ouais. Alors, pour ma part, j'en arrive au bout, au terme, avec cette dernière question. Et puis ensuite, on se tournera vers les personnes, vers le public qui souhaiterait te questionner. Alors, l'avenir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, selon toi, ces prochains moments? Comment est-ce que tu vois, si tu pouvais, comme ça, te projeter? Eh bien, évidemment, jusqu'au 8 mai, même au-delà. Voilà, selon toi, les équilibres, quels sont-ils? Quelles alliances pourraient éventuellement surgir? Et comment les choses pourraient-elles évoluer?
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le MAS, il a une base de votation très, très importante. Je pourrais même dire assez facilement que le MAS va gagner de nouveau les élections le 8 mai. Parce que non seulement on a vu 14 ans de développement, 14 ans de joie finalement, et en deux mois on a vu des massacres, on a vu que des entreprises ont été données en cadeau, notamment la ligne aérienne bolivienne, des gens qui ont été nommés, la fille du ministre du gouvernement a été nommée consul à Miami avec un salaire de 10 000 dollars. Voilà, donc les gens ils savent, hein. Je pense qu'il y aura une votation assez massive pour le MAS. Par contre, là où j'ai craint, c'est que effectivement on a vu la force avec laquelle ce coup d'état a été donné et la systématique avec laquelle ce coup d'état a été fait. Donc je me dis, est-ce que les élections seront propres?
C'est ça,
c'est la première question.
Ouais.
Quand on sait que l'OEA, l'Organisation des États américains, a déclaré qu'il y a eu une fraude dans les élections passées, mais on parle de la partie informatique qui n'était pas officielle, on parle que de ça. Ils ont trouvé 200 votations avec des erreurs. 200. Même si ces 200 votations allaient au parti de Carlos Mesa, le MAS avait gagné. On parle de rien. Et ils ont dit, il y a eu une fraude. Bon, l'honnêteté de l'OEA dit, ne dit jamais qu'il y a eu fraude dans son rapport. Il dit des irrégularités. Et c'est l'OEA même qui va surveiller ces élections du 8 mai. Donc on peut craindre qu'il y ait une vraie fraude cette fois. Et ça, par la suite, les mouvements sociaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. J'espère que on va laisser gouverner les désastres pendant 5 ans et par la suite on va se récupérer. Mais idéalement, on devrait gagner les élections avec les masses.
Et alors, pour en terminer, de quelle manière peut-on se contre-informer? Peut-on rester en alerte? Est-ce que aurais-tu quelques pistes à suggérer concernant des journaux, des radios, des réseaux sociaux, des sites internet, des pistes sur lesquelles nous tous ici pourrions aller un petit peu débusquer des informations dont on serait certain qu'elles soient correctes?
Alors, il y a plusieurs canaux d'information. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que des gens de l'opposition sont, par exemple, informés par Facebook. Ça, c'est édifiant. Il y a un site qui est de Monsieur Colomb, Michel Colomb, Investigation. Et ici, on peut voir pas mal de choses au niveau mondial et sur le plan latino-américain. Ça, c'est un très bon site pour s'informer. Nous, évidemment, en espagnol, il y a la radio Causa Chuncoca, il y a plusieurs sites desquels on a les informations. Mais en français, je pense qu'une des références serait celui-ci.
D'accord. Victor Hugo Gutiérrez, merci beaucoup. Ça, c'est un merci personnel. Un membre du collectif Bolivia Plurinacional ainsi que de l'association Por Bolivia Me Muevo. Merci à toi. Je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudissements.